Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Milad Kourcy, bonjour. On est très excités par la réouverture de Notre-Dame de Paris qui sera donc au mois de décembre prochain, je crois. Le monde entier regarde ça. Et on peut en avoir un avant-goût que je trouve très excitant en ce moment au Gobelin, 42 avenue des Gobelins, dans le 13e arrondissement de Paris, puisqu'il y a une exposition sur les mets de Notre-Dame de Paris, histoire d'une commande des 17e et 18e siècles. Alors qu'est-ce que c'est que les mets? Eh bien les mets, ce sont de très grandes toiles que les artistes offrent à la Vierge Marie au mois de mai, à Notre-Dame de Paris. Alors, le brin y est, enfin, on va revenir, vous allez revenir en détail. Et lorsqu'on était dans Notre-Dame de Paris, mon Dieu, ça fait 6 ans qu'on n'y est pas allé, donc on s'en souvient plus presque. Mais quand on y allait, il y avait ces grands tableaux que l'on ne voyait pas, parce qu'on regarde toujours le Saint-Sacrement, ou on regarde les bougies, ou on regarde les gens qui passent, mais on ne lève pas le nez pour regarder ces très grandes toiles. Ce sont des toiles qui sont inspirées pour la plupart des Actes des Apôtres, quelquefois de Jacques de Voragine, et ces toiles, imaginez-vous, ont été restaurées à la faveur de l'incendie. Certaines étaient assez abîmées, d'autres assombries par la fumée. Elles ont été nettoyées. Alors, il y a toute une explication dans l'exposition formidable où on comprend le travail de dingue qu'ils ont fait parce qu'ils ont tout numérisé. Et ensuite, on peut jouer. Il y a des écrans, il y a des iPads où on peut voir l'œuvre avant, l'œuvre après. Et puis surtout, l'œuvre est très bien accrochée parce qu'on est juste devant et qu'on peut voir tous les détails, ce que nous ne verrons plus une fois qu'elles seront accrochées dans Notre-Dame de Paris. C'est à vous.
Merci Christophe. Moi je suis comme vous, j'étais très curieuse de voir ces mets, d'abord parce qu'à l'école du Louvre, on étudie les mets de Notre-Dame, c'est quelque chose qui fait partie du programme, et ça montre l'importance de cette collection des mets de Notre-Dame dans l'histoire de France, de notre pays, l'histoire de la peinture et l'histoire de l'art. Et donc j'étais très heureuse d'aller à la rencontre de ces mets. Donc dans cette exposition, il y a 21 tableaux de grand format, dont 13 mets. Les mets, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont ces grands tableaux dont vous avez parlé, qui ont été offerts entre 1630 et 1607, 76 tableaux en tout, à Notre-Dame de Paris. Par qui? Par la confrérie des orfèvres, qui le 1er mai offrait un tableau à Notre-Dame. Il y avait accompagnant ce tableau un sonnet et un vœu pour le roi, et ensuite un petit cartel explicatif. Et si vous permettez, avant qu'on parle des œuvres qui sont absolument extraordinaires et remarquablement restaurées, et qui sont aussi un témoignage de ce qu'est la peinture française de cette période,
avec la peinture religieuse française.
Peinture religieuse avec les influences italiennes, les influences flamandes.
Ah, il y a du Véronèse.
Il y a du Véronèse, il y a du Raphaël, il y a du Rubens, et il y a du Michel-Ange. Donc on a tout ça, et c'est extraordinaire de pouvoir le déceler. Alors, je reviens sur votre petite intervention, la peinture religieuse française. La peinture française au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est de l'art contemporain que l'on voit dans les églises. Parce que les autres commanditaires, ce sont les princes, les aristocrates, ou les très très grands bourgeois, rares. Donc, c'est dans les églises que ça se passe, l'art contemporain. Donc, oui, la peinture religieuse française, mais qui est le reflet de la peinture française de l'époque, puisque ce sont eux les plus grands commanditaires. Alors, les mets, qu'est-ce que c'est? Juste rapidement, ça vient d'une origine païenne. Ce terme mets, il est plutôt à rechercher dans une tradition païenne à partir du XIIIe siècle. C'était une coutume de célébrer le mois de mai, c'est-à-dire le renouveau de la nature. Donc ça n'avait au départ rien de chrétien. Et donc, publiquement, il y avait une procession d'un arbre vert ou fleuri. Voilà. Mais finalement, l'Église a désiré que cette procession ait un fondement liturgique. Donc, dès le début du XIVe siècle...
1449,
voilà,
précisément.
Voilà, exactement. Et bien après, il y a eu donc une évolution et il y a une christianisation de cette coutume où on offrait cet arbre de mai, cet arbre fleuri, cet arbre du renouveau de la nature à la Vierge Marie et on l'assimilait à l'arbre de la croix. Donc, c'est finalement à Paris une coutume qui a pris forme dans le cadre d'une association professionnelle qui fut celle des orfèvres. C'est pour ça que...
C'est la confrérie Sainte-Anne, voilà. Donc de la mère de Marie.
La mère de la
Marie.
Vierge, voilà. Et c'est intéressant parce que ces orfèvres, qui donc étaient les compagnons du mai, avaient une grande proximité avec le pouvoir, et notamment cette proximité s'accrut au XVIIe siècle, puisque la reine Anne d'Autriche devint bâtonnière de la confrérie des orfèvres en 1620. Et plusieurs des membres de cette confrérie étaient orfèvres du roi. Donc vous voyez là, il y a une convergence entre cet art extraordinaire des orfèvres et cette tradition qui est devenue chrétienne, et puis le pouvoir, la puissance de la reine.
Alors ces toiles sont toutes de même grandeur, hein, elles font 10 pieds et demi sur 8 pieds et demi, soit environ 3,40 m sur 2,75 m. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'elles sont toutes de la même grandeur. Il n'y a pas un grand format, un petit format, un moyen format, parce qu'il fallait rentrer dans Notre-Dame de Paris et que ça puisse s'afficher tout au long de la nef.
Exactement. Alors au départ, elles étaient affichées au-dessus des piliers, au niveau des chapiteaux, oui, les unes après les autres. On a découvert à la restauration, donc très récemment, qu'elles étaient numérotées. En fait, c'était attesté, cette numérotation, dans les archives de la cathédrale. On n'a pas retrouvé les numéros sur toutes les œuvres, mais certaines, oui. Et à la Révolution, toutes ces œuvres ont été dispersées, redistribuées dans les églises de province, et donc finalement cette espèce de collection tout à fait extraordinaire a un petit peu disparu. Et c'est à partir de 1940 simplement que l'intérêt pour la collection est revenu, avec notamment le travail de reconstitution d'un superbe comment est-ce qu'il s'appelait, je vais me retrouver son nom bientôt. Alors, qui a réussi à reconstituer cette collection et qui a été ensuite réexposée à Notre-Dame, mais pas au-dessus des piliers, mais plutôt dans les chapelles. Et c'est aussi pour ça, vous disiez qu'on les voyait pas, on les voyait pas aussi parce que dehors, c'était très noir, oui, très sombre. Voilà.
Alors, donc, ce qui est extraordinaire, c'est le travail de restauration qui a été fait. Parce que imaginez-vous que pour un travail de restauration comme ça, il fallait une logistique incroyable. Ce sont des tableaux de grande dimension. Ça ne peut pas se faire sans l'aide d'une entreprise spécialisée qui a été chargée de l'aménagement du lieu, du stockage, de la réalisation des espaces destinés, l'un au traitement du support et des cadres, et l'autre à la restauration de la couche picturale, soit une surface totale, imaginez-vous, de 1630 m². Ces ateliers étaient opérationnels en mars 2021, soit 3 mois après le transport des tableaux, nécessitant 6 à 8 personnes pour transporter les plus grandes toiles.
Oui, rien que le décrochage était une entreprise à elle toute seule, hein, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on découvre quand on va au Gobelin ? On découvre donc exposé, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est à hauteur d'homme.
Oui,
alors
c'est
que
ça
qui a réussi. C'est ça qui est bien, parce qu'à Notre-Dame, ce sera terminé.
Oui.
Ce sera beaucoup trop haut, on n'aura pas cette proximité avec l'œuvre qui là est absolument, mais c'est merveilleux. Alors il faut les regarder en pensant qu'ils étaient composés pour être vus de très bas, puisqu'on voit bien sur certains dessins et certains tableaux anonymes représentant la cathédrale, l'intérieur de la cathédrale avec les mets exposés, on voit bien l'échelle humaine par rapport à la hauteur de l'accrochage. Donc on s'attend à peu près à vivre la même chose. Mais là par exemple, quand on entre, on a ce premier tableau de Jacques Blanchard, le 1er mai. En fait, le 1er mai qui nous reste, c'est pas le 1er mai de l'histoire des mais, mais c'est le premier, le plus ancien qui nous reste, qui date de 1630, qui représente la 1634, qui représente la descente du Saint-Esprit. Et c'est tout à fait fidèle à l'esprit de cette commande, c'est-à-dire que nous sommes au XVIIe siècle. Il y a eu la réforme protestante, à l'issue de laquelle le Concile de Trente a eu lieu. Le Concile de Trente a établi des préceptes d'affirmation du dogme et de la foi catholique face à la réforme protestante, et en particulier par le moyen de l'art. Donc dans le moyen de l'art, nous devons, les artistes, répondre à ces préceptes par des compositions qui soient convaincantes, lisibles et théologiquement justes. Voilà, ça c'est les trois critères. Donc nous voyons par exemple avec Jacques Blanchard la descente du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est ? C'est la Pentecôte. Voilà. Donc c'est tiré des Actes des Apôtres, comme la majorité des thèmes de ces mets. Pourquoi les Actes des Apôtres ? Parce que les Actes des Apôtres mettent en scène les disciples à l'œuvre dans la prédication. Les disciples à l'œuvre et aussi les disciples qui vivent un martyr.
Dans le martyr, tout à fait. Et la crucifixion de Saint-Pierre est formidable.
Formidable. Et, aussi la vie dans les sacrements.
Oui.
Et donc les disciples, ce sont quoi ? Ce sont devenus des saints. Or, la religion catholique est restée fidèle à la dévotion aux saints, ce que dénie la nouvelle, le protestantisme.
La nouvelle religion.
Donc, il faut absolument affirmer ce que
La grandeur des saints.
La grandeur des saints.
Le martyr des saints.
Voilà. Et les sacrements.
Et les sacrements, voilà. Absolument. Donc, et c'est ce là, qu'on va retrouver tout au long de toute cette toile.
Et nous voyons ici, avec cette descente du Saint-Esprit de Jacques Blanchard, donc les disciples autour de la Vierge Marie, tétanisés par le retour au ciel, la remontée au ciel du Christ à l'ascension 10 jours plus tôt, qui sont absolument persuadés qu'ils vont être eux aussi martyrisés par les Romains et les Juifs. Donc ils vivent enfermés pendant 10 jours autour de Marie et ils prient ardemment. La scène se situe dans un bâtiment de pierre qui évoque aujourd'hui ce qu'est une église, l'église n'existant pas encore à l'époque. Et nous voyons Saint-Pierre qui se lève de dos et qui en fait emmène avec lui tous les spectateurs. Saint-Pierre se lève de dos et il a les mains levées au ciel, la tête levée au ciel. Et qu'est-ce qu'on voit en levant les yeux au ciel? Dans un petit nuage qui semble presque imperceptible, des dizaines de flammèches de feu, qui représentent les flammes, les langues de feu de l'Esprit-Saint dont parlent les actes des apôtres, qui se posent sur la tête des disciples.
Parce qu'elles ne sont pas encore sur la tête des disciples.
Non,
c'est ça qui est très beau.
Elles sont
en train de tomber, comme une pluie de lumière.
Exactement.
Et c'est ça qui est très joli.
Et c'est ça qui est aussi l'effet se lever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient tétanisés de peur, verrouillés à quatre tours de toutes les portes fermées à clé. Et là, tout à coup, ils se lèvent, ils reçoivent l'Esprit-Saint. Certains se déplient. On voit Saint-Jean à gauche de Saint-Pierre encore assis qui s'appuie sur la main pour se lever. On en voit d'autres qui lèvent les mains au ciel ou les mains jointes et qui enfin retrouvent des couleurs sur leur visage. La Vierge au milieu d'eux assise en prière, elle aussi toute de blanche vêtue, toute de blanc vêtue, tourne son visage vers cette nouvelle lumière, cette nouvelle force d'en haut qui leur vient pour aller évangéliser, annoncer l'amour de Dieu. C'est très puissant.
Quand vous rentrez dans cette grande galerie, tout de suite à droite, il y a un tableau de Laurent de la Hire, Saint-Pierre guérissant les malades de son ombre. Et c'est un... vous l'avez devant vous. C'est un tableau qui est très beau. Au premier plan, on voit une femme quasiment torse nu, qui est en train de mourir. Et puis, il y a son enfant qui la pleure. Et alors, l'attitude de Saint-Pierre est étonnante. D'abord, les couleurs, ce bleu et cet orange, le bleu presque du lin ou du jean, j'aurais envie de dire.
Ah oui.
Et regardez le geste à la fois d'accueil et de simplicité qu'il a, et le regard qu'il porte sur tous ces malades qui sont autour de lui. Et là, on a encore une fois l'apôtre de guérison, de miracles et de l'envoi en mission du Christ. Alors, je ne connaissais pas du tout Laurent de la Hire.
Laurent de la Hire, c'est un des grands noms de cette période-là, parce qu'il faut bien dire que les mets de Notre-Dame employaient les artistes qui faisaient partie de l'Académie de peinture et de sculpture, l'Académie royale qui a été créée en 1648, et donc c'était les stars.
Ouais.
Donc il y a Simon Vouet, il y a Charles, là il n'y a pas Simon Vouet en l'occurrence, mais Aubin Vouet, Charles Lebrun, Laurent de la Hire, Jacques Blanchard, enfin il y a toute une génération d'artistes qui sont nos artistes contemporains stars de l'époque.
Et voilà. Tout ça pour nous permettre de prier. Laudation Salvatorem, vous avez reconnu le plein chant de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans cet avant-goût, dans cette émission d'un avant-goût de la réouverture de Notre-Dame de Paris, avec vous Mélina de Courcy, et pour aller au Gobelin, 42 avenue des Gobelins, pour voir cette formidable exposition des mets de Notre-Dame de Paris, ces très grandes toiles d'inspiration religieuse, bien sûr, offertes tous les mois de mai à la cathédrale Notre-Dame, et que l'on peut voir là vraiment très proche. On s'est très bien accroché parce que lorsqu'ils retrouveront les piliers de Notre-Dame, ils seront très très hauts et on ne pourra pas voir tous les détails.
Et c'est vrai que là, on constate avec ce qu'on a dit juste à l'instant, c'est que la vocation de ces mets de Notre-Dame était aussi pour instruire.
Mais oui, il n'y avait pas de catéchisme.
Donc justement, on parlait de Laurent de la Hire, Saint-Pierre guérissant les malades de son ombre. Qu'est-ce que c'est que cette ombre de Saint-Pierre? Ce n'est pas lui, évidemment. C'est qu'à travers Saint-Pierre passe le Christ. C'est ça que veut montrer, c'est ça cette histoire qui se passe dans les actes des apôtres et que Laurent de la Hire peint ici. Donc au moment où Saint-Pierre passe devant une femme allongée complètement mourante, son ombre la recouvre et elle recouvre en même temps la vue, la vie. Voilà.
Alors, très beau tableau aussi, c'est le martyr de Saint-André.
Magnifique.
Où là, on a un corps d'homme qui vaut Michel-Ange.
Oui, alors là, on est avec...
Voilà, c'est là. Ça, c'est Saint-Pierre.
Ça, c'est Saint-Pierre. On est avec Charles Lebrun. Donc Charles Lebrun, c'est une personnalité extrêmement importante du milieu artistique, du monde artistique du XVIIe siècle français, puisqu'il a été directeur des bâtiments du roi, donc c'est le ministre de la Culture, hein, si vous voulez. Il a fait sa formation, bien sûr, à Rome. Il a été notamment élève de Poussin. Et lui, Lebrun, revient à Paris pour justement répondre à ses commandes de grands décors. Et en particulier, il a fait deux mets, il en a réalisé deux, donc le martyr de Saint-André de 1647 que l'on voit ici, et on perçoit bien sûr cette influence italienne qu'il a parfaitement su réintégrer dans une composition française teintée de classicisme, parce que vous savez que la France n'a pas fait partie de ce croissant baroque qui a traversé toute l'Europe. Donc le baroque est parti d'Italie et comme une espèce de croissant...
Il va jusqu'à Prague,
mais en évitant la France, puisque à l'époque, la France est en pleine crise janséniste et Louis XIV impose une forme de classicisme à la cour. Donc les artistes ne tombent pas dans ce baroque ou ce ténébrisme.
Et ce croissant correspond...
Et ce caravagisme qui, lui, envahit tout le reste de l'Europe.
Et ce croissant correspond aussi à la pâtisserie à la crème, ce que démontrait Dominique Fernandez dans l'un de ses livres.
Ah oui, c'est vrai, la perle et le croissant, il parle de ça aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rococo, ce qu'on appelle le rococo en France, ça sera la période de la Régence et ensuite Louis XV. Mais à l'époque de Louis XIII fin et Louis XIV, il n'y a pas de baroque en France. Voilà. Alors, pourtant, nous connaissons un certain ténébrisme avec, par exemple, des peintres régionaux comme Georges de la Tour, voilà, qui lui a été très influencé par à la fois les Flandres et l'Italie. Mais les peintres français parisiens ne tombent pas dans ce caravagisme qui envahit toute l'Europe.
Alors, nous quittons ce rez-de-chaussée et nous montons à l'étage. Et là, nous sommes très excités parce que nous allons découvrir le mobilier de la nouvelle cathédrale de Paris, ou plutôt le nouveau mobilier de l'éternelle cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors d'abord, quand on entre, on voit des chaises. Il y a juste une paire de chaises. Moi, je les ai trouvées formidables. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Mélina de Courcy?
Alors moi, j'ai eu une appréciation en deux temps. C'est-à-dire que j'ai vu ces chaises un peu raides à barreaux, dont le dossier est à barreaux. En soi, elles ne m'ont pas paru absolument extraordinaire, mais quand j'ai vu la reconstitution des 1500 chaises en chêne massif qui sont fabriquées dans les Landes, dessinées par Iona Vautrin, et qui sont en situation dans cette projection future de ce que ce sera, j'ai trouvé que c'était très beau.
C'est très beau, c'est très sobre. Et alors ensuite, on voit le matériel, on voit notamment l'ambon, ce qui est, vous savez, cette chaire sur laquelle on pose le livre.
Voilà, on proclame la parole de Dieu.
Et on proclame la parole de Dieu. Et là, l'ambon est très beau, très effilé, et c'est vraiment un livre.
Oui, C'est très beau, ça c'est très beau. Ça,
ça c'est très réussi.
Alors en fait, ce mobilier est quand même assez pur, assez épuré. Il est très contemporain.
Ah oui.
Il sera constitué de bronze patiné et de pierre, qui n'est pas du marbre d'ailleurs, c'est de la pierre calcaire. Il concerne l'autel Lambon, le siège cathèdre, le tabernacle et le baptistère. Le baptistère est magnifique.
Magnifique.
Parce qu'il a un espèce de donc cette grande cuve en bronze et par-dessus ce couvercle de baptistère qui miroite sous l'effet de la lumière. C'est très beau ça, c'est très très beau.
Et alors ce sera tout de suite à l'entrée de la cathédrale.
Oui.
Et c'est très réussi puisqu'il donne un peu, on voit le baptistère tout de suite et hop, au fond on a la réponse du baptistère qui est l'autel. Qui est lui aussi tout en courbe.
Oui, absolument.
Et ça, ces deux meubles liturgiques qui se répondent l'un l'autre, ça c'est très réussi. Et lorsqu'on est au Gobelin, on voit la maquette à un cinquième seulement.
Oui, absolument.
Donc on peut l'appréhender, on peut l'imaginer, mais ça va être grandiose.
Oh, oui.
Alors en revanche, moi je suis moins partant sur le tabernacle. Je trouve qu'il est assez inspiré de... ça ressemble un peu à ce que magnifiquement fait Sophie Renoir, j'avais fait une émission avec elle, et qui travaille aussi sur un tabernacle. Là, on a, je trouve, un peu une inspiration, mais c'est pas aussi fort, aussi incarné, voire féminin, que l'œuvre de Sophie Renoir.
C'est Guillaume Bardet qui a réalisé ses projets et qui a été retenu pour ce projet du mobilier liturgique, du nouveau mobilier liturgique.
Alors, moi, je trouve ça très réussi, à l'exception, encore une fois, de ce tabernacle. Maintenant, on verra comment la croix d'or derrière va relancer l'or que l'on voit à l'intérieur du tabernacle. Mais bon, ils auraient dû prendre Sophie Renoir.
Non, mais je pense que globalement, on est vraiment très réussi.
Parce oui, ça va être très beau.
À la fois sobre, relativement monumental, épuré.
Oui.
Et ça restitue quelque chose de très puissant dans la nouvelle esthétique de la cathédrale.
Alors le tapis.
Alors moi j'ai eu un coup de cœur pour cet énorme tapis.
Le tapis de cœur que l'on
offert
voit
offert par Charles X et qui est extraordinaire. Donc qui est un tapis des Savonneries. Donc vous savez que les Savonneries c'est donc créé au XIIIe siècle, qui a été au moment de Colbert l'a installé sur les bords de la Seine au pied de la colline de Chaillot dans une ancienne fabrique de savon. C'est pour ça que les tapis fabriqués là s'appellent les tapis de la Savonnerie. Voilà. Et donc c'est du velours. Le velours, c'est quand on coupe le tissu en son centre, en deux. On coupe le tissu en deux au niveau de l'épaisseur. Et donc, c'est un tapis noué à la manière turque, parce qu'à l'époque, on était absolument fascinés par tout ce qui venait de Perse et de Moyen-Orient. Voilà. Et donc, il y a des couleurs rouge sang profond, bordeaux, comme le vin qui est donc l'image du sang du Christ, avec des pampilles de raisin sur le tour et un décor absolument extraordinaire de feuilles d'acanthe. Ce tapis de cœur, c'est une splendeur.
Mais on n'a pas envie de marcher dessus.
Non, absolument.
Parce que là, il est très très bien représenté,
ah oui,
puisque on est au-dessus et on voit ce tapis, on se dit mais ils ne vont pas marcher dessus.
Ah oui, c'est extraordinaire.
C'est une pièce extraordinaire.
Et c'est génial de la voir de si près.
Mais oui.
Ça vaut vraiment la peine d'aller voir cette exposition au Gobelin.
On a déjà l'excitation, parce qu'on a envie vraiment de retourner dans Notre-Dame de Paris. On a cette excitation. Et puis là, on dévoile certains secrets. C'est-à-dire qu'on voit le mobilier, on voit comment ça va s'agencer, on voit... On le verra tout le temps, mais là, on le voit de très près.
Oui.
Lambon, on peut presque le toucher. Alors certes, c'est encore une fois un cinquième, mais ça va être magnifique.
Oui,
c'est très, très réussi.
Oui, oui.
Et puis, ces toiles, je reviens, les mets, que là, on peut voir vraiment très, très près.
C'est
que
unique.
Ce que nous ne pourrons plus à partir du mois de décembre.
Oui, c'est complètement unique de voir ça de si près.
Alors le mobilier, sachons-le, va être installé dans Notre-Dame de Paris à partir du mois de juillet pour pouvoir avoir la patine pendant juillet, août, septembre, octobre, novembre. Avoir cette espèce de patine pour ne pas que ça soit trop clinquant. Et en effet, vous le disiez très bien, ça va être très sobre, ça va être dépouillé. Et c'est ce qui rend... Je trouve l'intérieur très moderne.
Absolument. C'est une épuration, une sobriété qui pousse à la méditation.
Mélina de Courcy, merci infiniment. Nous étions donc au Gobelin, 42 avenue des Gobelins, dans le 13e arrondissement, pour visiter cette exposition « Les mets de Notre-Dame de Paris », et ce qui nous a permis de voir, de comprendre le nouveau mobilier de la cathédrale. Nous avons vraiment hâte d'y aller et de nous en réjouir. Merci à tous, merci naturellement Cédric Cobat pour la réalisation, et puis François, Camille, Faustine, Philippe pour la réussite technique de notre rendez-vous. Nous nous retrouvons demain pour parler, eh ben oui, de Sainte Rita, ça sera la semaine d'après. On va parler d'un crocodile, précisément d'un alligator qui pleure, les larmes de l'alligator. Je vous embrasse.